de continuer à méditer notre évangile de Marc, sur lequel nous sommes depuis quelques mois. Et on va terminer ensemble le chapitre 6, versets 30 à 56. Et sans plus en dire, j'aimerais vous proposer d'écouter la parole et de la lire ensemble. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc ce passage fait suite à l'envoi des disciples en Palestine pour pouvoir annoncer l'évangile. Verset 31, Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on le devança à l'endroit où il se rendait. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et je vais au verset 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et ils voulaient les dépasser. Mais quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Je vais arrêter ma lecture ici. En 1066, Guillaume le Conquérant est parti à la conquête de l'Angleterre. Et pour l'anecdote, dans l'histoire d'Angleterre, il n'y a que deux invasions réussies. Vous connaissez très certainement l'échec lamentable de Napoléon, qui avait pourtant vendu la Louisiane aux Américains pour financer cette invasion de l'Angleterre. Vous avez entendu parler des projets des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas pu être mené à bien. Eh bien, Guillaume le Conquérant, lui, en 1066, a réussi à envahir l'Angleterre. Et cet événement, il est célébré dans cette incroyable broderie qui se trouve en Normandie, à Bayeux. Et on appelle cela la tapisserie de Bayeux. Ça mesure 70 mètres de long. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un détail dans cette broderie qui est assez incroyable. Cet extrait représente la bataille de Hastings. On est en Angleterre, les Normands ont débarqué, et Guillaume le Conquérant, avec ses troupes, est en train de se battre dans cette bataille décisive. Mais voilà qu'une rumeur se propage. Guillaume le Conquérant est mort. Il a été tué par les Anglais. Alors que fait Guillaume le Conquérant sur son cheval, ici au milieu ? Il se retourne face à ses troupes, il enlève son casque et il montre son visage, de telle sorte à ce que tout le monde voit qu'il est bien vivant et que le combat continue. Les soldats reprennent courage et les Normands remportent la victoire. J'aimerais vous parler ce matin d'un chef exceptionnel, d'un chef qui est plus qu'un combattant de guerre, puisque Marc nous présente Jésus comme un roi à la tête de ses troupes, mais un roi serviteur. Parce que je vous rappelle ce thème clé de Marc, dans chapitre 2, verset 17, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus est venu comme un médecin pour guérir les malades. Jésus est venu comme un serviteur pour soutenir ceux qui ont besoin d'être soutenus. Et ce chapitre 6 insiste sur trois caractéristiques de ce serviteur. On a vu d'abord que ce serviteur fait face à l'incrédulité de ses compatriotes au début du chapitre 6. Vous vous souvenez, c'est cette fameuse expression où Jésus dit qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Dans les versets 13 à 29, dont David nous a parlé il y a 15 jours, le serviteur fait face à l'incrédulité de ses ennemis. C'est Hérode et sa femme Hérodiade qui mettent à mort Jean-Baptiste. Et dans ce passage, on apprend que Jésus doit aussi faire face à l'incrédulité de ses disciples. Et ce verset 51-52 insiste très fortement sur cette idée. Voilà que les disciples étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés de voir Jésus qui marchait sur les eaux, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Je trouve cette phrase assez surprenante, parce que le verset 51 paraît évident. Ils étaient en effet en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés. Normal, ils sont sur Alak en train de ramer et ils voient quelqu'un qui avance vers eux en marchant sur les eaux. Je pense qu'on aurait tous été plutôt stupéfaits et étonnés. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Jésus leur reproche cet étonnement. Mais pas parce que pour l'étonnement lui-même, mais en ajoutant que c'est parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains, où Jésus vient de multiplier des pains et des poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes. Et il ajoute parce que leur cœur était endurci. Alors, les disciples, on peut comprendre qu'ils ont pourtant vu déjà des miracles. Je viens de parler de la multiplication des pains, là. Mais dans Marc 5, on avait vu que, alors qu'ils étaient au milieu de la tempête, Jésus était intervenu et avait ramené le calme. Et puis, depuis le chapitre 1 de Marc, on voit que les disciples sont confrontés à des miracles que Jésus est capable de faire. Ils partagent la vie quotidienne de Jésus. Ils sont à l'écoute de son enseignement. Ils ont même tout quitté pour le suivre. Et pourtant, Jésus leur envoie à la figure. Mais si vous avez peur, c'est parce que vous n'avez pas compris le miracle des pains, parce que votre cœur est endurci. C'est quand même assez violent comme manière de procéder. Et pourtant, voilà ce que Don Carson, dans ses méditations quotidiennes, explique sur ce passage. Il a trois points, mais je voudrais en partager deux. Le premier, c'est que Don Carson insiste sur la rapidité avec laquelle nous pouvons oublier les interventions providentielles du Seigneur dans notre vie, au point que nous sommes franchement surpris et confus lorsqu'il nous porte à nouveau secours. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, on est tous prompts à oublier les bonnes choses et souvent à se laisser submerger par les mauvaises choses. Mais encore plus dans notre relation avec Dieu, la confiance et l'intervention de Dieu d'un jour ne nous garantit pas de nous en souvenir dans 6 mois. Nous avons tendance à oublier qu'il est là et qu'il prend soin de nous. Deuxième principe, deuxième analyse que fait Don Carson, c'est sur cette expression de cœur endurci. Pourquoi Jésus dit-il que les disciples ont le cœur endurci? Alors, ça ne veut pas dire que les disciples étaient limités dans leur raisonnement. C'est simplement que leur raisonnement était mal orienté. Ils étaient trop focalisés sur l'immédiateté de leur peur, de leur situation, incapables de pénétrer et de réaliser et de voir le mystère de l'identité de Jésus et la raison de sa venue. Tout simplement parce que, en prenant du recul, et de notre point de vue c'est facile, ils avaient déjà une certaine conscience que Jésus était le Messie. Et s'ils avaient choisi de tout quitter pour le suivre, c'est parce qu'ils étaient convaincus qu'il allait prendre soin de lui. Donc ils n'avaient pas à avoir peur. Mais voilà que il y a un détail assez fou au verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Autrement dit, lorsque Jésus fait ce reproche à ses disciples de ne pas comprendre ce qui se passe, d'avoir un cœur endurci, il le fait alors même qu'ils sont sur une barque en train de ramer, et d'après le texte, on comprend qu'il est à peu près 3 heures du matin. Donc ça fait un moment qu'ils rament, parce qu'ils sont partis dans la soirée, ils ne sont pas partis à minuit. Ils sont en train de ramer depuis un moment, ils font du surplace parce que le vent est contraire, et probablement qu'ils commencent à avoir mal aux bras, et en plus, ils sont fatigués parce que dès le début du passage, on voit que Jésus les prend à l'écart pour qu'ils se reposent. Et on comprend qu'ils n'arrivent pas à se reposer. Mais ce verset, il est assez incroyable. Pourquoi les disciples sont-ils sur ce bateau en train de ramer à contresens, à contrevent ? C'est Jésus qui les a obligés à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive. Ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui les a mis dans cette situation compliquée. Je vous lis ce que dit Oswald Chambers dans « Tout pour qu'il règne » au sujet de ce passage. « Nous avons tendance à nous imaginer que si Jésus-Christ nous oblige à faire quelque chose, l'obéissance nous conduira vers un succès éclatant. Ne croyons jamais que le plan de Dieu est de nous accorder les succès dont nous rêvons. Il est possible que ses intentions soient juste à l'opposé des nôtres. Nous croyons que Dieu nous conduira dans une direction particulière, vers le but que nous désirons atteindre, et nous faisons erreur. Le fait d'atteindre tel ou tel but n'est qu'un incident de parcours. Notre état présent, où nous ne voyons qu'un moyen, est aux yeux de Dieu un aboutissement. » Je trouve ce raisonnement génial. Et je termine, je saute quelques lignes, mais je termine ce que dit Oswald Chambers. Le but de Dieu est de m'apprendre à reconnaître qu'il peut, lui, marcher aujourd'hui sur les eaux tourmentées de mon existence. Si nous avons en tête un but plus lointain, nous nous désintéressons du présent. Ce n'est pas extraordinaire. Les circonstances que nous vivons, Jésus est derrière, et certes, parfois, son objectif, ça peut être de changer nos circonstances, de changer mes circonstances. Mais toujours, son objectif, c'est de me changer malgré les circonstances, en révélant trois caractéristiques clés de sa personnalité. Sa compassion, sa compréhension et sa consolation. Et nous avons la chance ce matin, à travers ce passage, de voir une leçon de vie pratique que Jésus propose de nous faire découvrir à travers l'exemple de ses disciples. À travers ce qu'il fait vivre à ses disciples, Jésus nous apprend des choses sur lui qui peuvent nous encourager dans ce que nous vivons. D'abord, Jésus insiste sur sa compassion dans les versets 30 à 34. On voit au verset 30 que les disciples sont de retour de mission. Et voilà qu'ils reviennent à l'école du maître, comme dit Jean Calvin. Ils font leur rapport à Jésus, et puis Jésus est touché par leur fatigue, et il comprend qu'ils ont besoin de repos. Alors il veut les mener à l'écart pour qu'ils puissent reprendre des forces et puis continuer ensuite à servir. Mais ce qui est frappant ici, c'est que il veut leur donner du repos parce qu'il veut prendre soin d'eux. Et alors qu'il a cet engagement, il y a tout d'un coup une foule de gens qui arrivent vers lui. Et plutôt que de les repousser en disant « Écoutez, mes disciples sont fatigués, ils ont besoin de repos, que fait Jésus ?» Son cœur est touché. Et il va enseigner ces gens qui viennent vers lui. Son cœur est touché et le texte nous dit qu'il est rempli de compassion pour cette foule. Et pour bien comprendre ce que signifie cette compassion, Marc nous donne cette image du berger. Comme des brebis, il les voit comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Ce thème du berger, on le retrouve comme un fil rouge dans les Écritures. Et dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est souvent décrit comme un peuple sans berger. Mais Dieu promet, Dieu fait la promesse d'être ce berger qui va rassembler, qui va prendre soin de ce peuple. Je vous cite Ézéchiel 34, verset 11. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis et je veillerai sur elles. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Cette image du berger est pour nous un profond encouragement de savoir que cette compassion de Christ est semblable à celle d'un berger qui veut prendre soin de chacune de ses brebis. On trouve d'autres images d'ailleurs liées aux animaux dans les Écritures. Dans Deutéronome 32, Dieu est comparé à un aigle qui veille sur sa couvée. Dans Matthieu 22, on voit aussi que Christ se compare à une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Deuxième caractéristique de Jésus, c'est sa compréhension. Le texte des versets 35 à 44, qui est celui donc de la multiplication des pains et des poissons, insiste énormément sur le désert. On retrouve ce terme de désert à plusieurs reprises. Les disciples disent d'ailleurs, cet endroit est désert, il est déjà tard, renvoie-les pour qu'ils puissent aller au supermarché avant qu'il ferme. Enfin, c'est plutôt des épiceries apparemment, parce qu'il parle de village autour. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que si les disciples disent à Jésus de renvoyer la foule pour qu'ils aillent se rester à manger, c'est aussi parce qu'eux, ils ont faim et ils sont fatigués. Et probablement qu'ils ont aussi un problème très personnel. Et Jésus, de manière étonnante, les regarde et leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Alors, ce qui est assez fou, c'est que ce passage dans la multiplication des pains, on le retrouve dans les autres évangiles, dans les quatre autres évangiles d'ailleurs. Et dans Jean, ce miracle de la multiplication des pains est suivi par ce discours de Jésus où il se compare au pain de vie. Et bien sûr que ce miracle de la multiplication des pains et des poissons évoque Jésus comme le créateur, Jésus comme le nourricier, Jésus comme la nouvelle manne qui avait été distribuée au peuple hébreu alors qu'il fuyait l'Égypte dans le désert. Et ce passage est là pour nous rappeler que Jésus est aussi indispensable pour notre cœur que le pain l'est pour notre corps. Mais plus que cela, et j'aime bien ce détail dans ce texte, c'est que comment se terminent ces multiplications des pains et des poissons? Ça se termine par 12 paniers pleins de morceaux de pain et des poissons en plus. Autrement dit, Jésus-Christ veut non seulement nous donner de la nourriture pour notre cœur, mais il veut nous nourrir en abondance. Et c'est un vrai festin qu'il nous promet. Si vous voulez en être convaincu, vous pouvez relire le psaume 23. Comment ça se termine, psaume 23, versets 5 et 6. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. » Ce passage soulève une question. Pourquoi, si Jésus est capable de multiplier des pains et des poissons de cette manière-là, pourquoi la faim existe-t-elle toujours dans le monde ? Autre question connexe, pourquoi dans les camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale, des millions de personnes sont mortes, souvent de faim, à cause de l'atrocité des conditions dans lesquelles ils étaient mises. J'aimerais vous rappeler encore une fois cette histoire de Corrie ten Boom, cette chrétienne hollandaise qui a été déportée au camp de Ravensbrück avec sa sœur Betsy, parce que sa famille avait caché des dizaines de juifs dans sa maison aux Pays-Bas. D'ailleurs, Corrie ten Boom est considérée comme juste parmi les nations par l'Institut Vadi Hachem à Jérusalem, comme l'est la commune du Chambon-sur-Lignon. Chrétienne hollandaise a écrit son histoire et voilà ce qu'elle dit. J'ai souvent entendu des gens dire « Comme Dieu est bon, nous avons prié pour qu'il ne pleuve pas lors d'un pique-nique de l'église et voyez le temps magnifique que nous avons. » Oui, et Dieu est bon lorsqu'il envoie une belle journée ensoleillée. Mais il était également bon pour moi lorsqu'il permit que ma sœur Betsy meurt de faim devant mes yeux dans un camp de concentration nazi. Je me souviens d'une fois où j'étais très découragé dans ce camp. Tout autour de nous était sombre et mon cœur était plongé dans les ténèbres. Je me rappelle avoir dit à Betsy que je pensais que Dieu nous avait oubliés. « Non, Corrie, » dit Betsy, « il ne nous a pas oubliés. Souviens-toi de sa parole. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et Corrie conclut en disant « Auprès de Dieu, il y a un océan d'amour, il y en a amplement pour tous. Que Dieu vous accorde de ne jamais douter de cet amour victorieux, quelles que soient les circonstances. » Jésus est donc plein de compassion, plein de compréhension pour nous, mais Jésus est aussi plein de consolation. Et les versets 45 à 52 insistent sur cette consolation. Alors, ce passage relate cet épisode où Jésus marche sur les eaux et vient à la rencontre de ses disciples. Et il y a trois actions qui m'ont frappé dans ce passage. D'abord, Jésus monte dans la barque. Jésus parle à ses disciples. Et la tempête s'arrête. Et ça évoque trois choses que Jésus fait pour nous lorsqu'on est dans une tempête. Jésus monte dans notre barque. Jésus nous assure de sa présence. Le texte insiste sur le fait qu'il est monté dans la barque près d'eux. Jésus nous parle parce que sa parole a une capacité extraordinaire de toucher notre cœur. Vous savez pourquoi la lessive est efficace dans une machine à laver ? C'est pas juste parce que c'est du savon qui fait des bulles, mais il y a quelque chose en plus, c'est des enzymes. Les enzymes, c'est des petites bactéries qui ont la propension de venir grignoter toutes les petites saletés qui sont dans le linge que l'on met dans la machine à laver. Donc le savon plus les enzymes, c'est des bactéries vivantes qui sont efficaces pour rendre le linge plus propre. Alors, je ne donnerai pas de marque de lessive particulière, parce qu'en fait, toutes les lessives sont composées de ces deux ingrédients, du savon et des enzymes. Vous savez ce que la parole de Dieu fait lorsqu'on se nourrit de la parole, c'est à la fois ce savon qui vient purifier nos pensées, qui vient laver notre cœur, qui vient donner une bonne odeur à notre manière de voir le monde et de comprendre le monde, mais en plus, dans la parole, il y a ces petites bactéries qui viennent en nous et qui vont grignoter toutes les choses qui nous embêtent, qui nous polluent, qui nous salissent et qui nous empêchent de voir la vie du bon côté. C'est ça la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Jésus donc monte dans la barque près d'eux, Jésus leur parle et la tempête s'arrête parce que lorsque Jésus est là, c'est sa puissance qui est à l'œuvre. Et par son Saint-Esprit, il peut accomplir cette puissance en nous de faire stopper la tempête. Vous savez que lorsque Marc a rédigé son évangile, le contexte des chrétiens était un peu particulier. L'Empire romain avait décrété un culte à l'empereur et voyait le christianisme comme une concurrence, ou en tout cas comme une forme de refus d'obéissance à ce culte de l'empereur. Et donc les chrétiens étaient persécutés. Alors imaginez comment ce récit a pu apporter une immense consolation. Les chrétiens de l'époque ont pu l'interpréter comme interpréter cette barque dans laquelle, sur le lac, comme la barque dans laquelle ils étaient, et ce vent contraire qui les empêchait d'avancer, comme la persécution de l'empereur envers eux. Mais voilà que Jésus dit, je monte dans la barque, je te parle, et le vent va s'arrêter. Imaginez comment ces chrétiens ont pu être encouragés à l'époque. La conclusion, elle se trouve dans les derniers versets de Marc 6, dans les quatre derniers versets. Jésus insiste dans ces versets sur le point culminant de son ministère en Galilée, où il se consacre sans réserve à ceux qui souhaitent une guérison physique. Ici, on lit qu'il y a des malades qui arrivent de partout sur des brancards, tous ceux qui apprennent sa présence viennent vers lui, et partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Et on a vraiment l'impression de cette abondance de la compassion, de la compréhension, de la consolation de Christ qui est résumée ici. Ce passage est là pour nous parler de l'incrédulité des disciples dans les circonstances de vie dans lesquelles ils sont. Quels sont les motifs d'incrédulité dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que la tempête que je traverse, où les vents sont contraires, où j'ai l'impression de ramer en faisant du surplace, se traduisent dans ma vie par le découragement, par la lassitude, par une forme de l'impression d'être blasé, l'impression que les objectifs de toute façon sont impossibles à atteindre, que ce soit dans mes examens scolaires, que ce soit dans ma vie de famille, que ce soit dans ma vie professionnelle, ou que ce soit tout simplement parce que ma santé ne va pas bien. Ici, Jésus insiste sur le fait que l'incrédulité des disciples n'est pas seulement dans le fait qu'ils ne croient pas que Christ peut changer leurs circonstances, mais c'est aussi une incrédulité dans le fait que Christ puisse changer leur regard malgré les circonstances. Il est fort possible que Jésus change parfois mes circonstances, mais ce qui est sûr, c'est qu'il souhaite toujours me changer malgré les circonstances. Et comment est-ce qu'il veut faire cela ? Par sa présence. Si je le laisse monter dans ma barque, au moment même où je réalise que je rame pour rien et que je fais du surplace, que c'est 3 heures du matin, que j'ai les yeux ouverts et que je suis fatigué. Tout simplement, au moment où je réalise que j'ai besoin de sa parole, parce que plus rien ne me parle, parce que ce que j'entends aux infos me déprime, et parce que je discute avec mes collègues au travail, avec mes camarades à l'école, ne m'encourage pas, j'ai besoin de sa parole. Par sa puissance aussi, parce que je réalise que j'ai besoin de quelque chose de surnaturel, j'ai besoin de quelque chose de plus qu'un beau discours et qu'une pensée positive pour m'aider à voir les choses autrement. Bref, ce que Jésus nous montre ici, c'est qu'il peut faire de grandes choses à partir du moment où je reconnais que je ne peux pas changer mon état d'esprit tout seul. Je n'ai pas les ressources suffisantes, je n'ai pas la possibilité de transformer ma manière de voir les choses sans une aide supplémentaire. Comment Christ peut-il opérer ce changement en moi ? Comment Christ peut-il opérer ce changement en moi ? Eh bien, il peut le faire parce qu'il est allé à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? Christ, à la croix, à accepter de se retrouver privé de la compassion de son Père. Dieu l'a abandonné à la croix. Il l'a laissé seul face à la cruauté et la dureté de ses bourreaux. Christ à la croix a accepté de se retrouver privé de la compréhension de Dieu. C'était terminé, Christ s'est retrouvé seul, sans plus personne pour l'écouter, sans plus personne à qui parler. Et dans cette solitude extrême, et dans cette misère immense, Christ a expiré. Christ à la croix a accepté de faire face à l'insensibilité de ceux qu'il servait et à la fin de toute consolation possible de ceux qui l'entouraient. Ils ont même préféré de choisir un meurtrier plutôt que de le libérer, lui. Ils ont préféré et choisi de se moquer de lui publiquement et d'écrire ces mots ironiques au-dessus de sa tête, « Celui-ci était vraiment le roi des Juifs ». Oui, c'est à la croix que Jésus nous prouve que tout l'amour qu'il a pour nous est disponible de manière extraordinaire parce qu'il en a payé le prix et il a accepté de tout subir pour que nous puissions être transformés. Oui, c'est grâce à ce que Jésus a accompli à la croix que je peux regarder les circonstances de ma vie autrement, rempli de confiance en lui, sûr de sa présence, de sa parole et de sa puissance. Et comme Guillaume le Conquérant s'est retourné vers ses troupes, a enlevé son casque pour montrer son visage et pour encourager ses troupes, eh bien nous aussi, nous pouvons, dans nos circonstances, lever les yeux et regarder vers Jésus, qui nous regarde avec son casque soulevé et qui est là pour nous dire « Je suis là, je suis ressuscité et je suis vivant pour t'emmener jusqu'à la victoire finale. » Amen.